Bien, alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que le roi, après la mort de Vashti, recherche une autre reine, bien, et toutes les jolies femmes de l'Empire sont réquisitionnées dans le harem, et en vérité, c'était les femmes vierges. Néanmoins, Esther, comme on a vu les versets, qui était Esther, qui était notre tradition dit d'après, c'est un débat dans la Gemara, dans le Talmud, mais la démarche de Rashi, c'était la femme de Mordechai. Et elle est prise dans le harem, dans le premier harem. Et nous avons vu le verset, Yudalef, le verset 11, sur lequel nous étions quittés la semaine dernière, verset absolument central. Au Vecholiom Vayom, est-ce que vous y êtes, verset 11, donc page 1322. Yes, c'est bon. Au Vecholiom Vayom, Mordechai mitaler lifne chatzar betanashim lada'at et shlom Esther umaya seba. Chaque jour et chaque jour, Mordechai fait les 100 pas devant la cour du harem pour savoir comment va Esther umaya seba et qu'est-ce qui va être fait par elle. Alors, on ne comprend pas Maya Seba, qu'est-ce qui va être fait par elle? Parce qu'il n'y a rien, ça veut dire Maya Seba, sa femme est prise dans le harem d'un dictateur, un potentat mégalomane. Bon, ok. Mais qu'est-ce qui va être fait par elle? Quel est le problème? Alors, Rashi rapporte le Midrash que Mordechai est un des deux tzadikim qui a vu un remez Yeshua, il a vu un signe qu'il va y avoir une délivrance. Pourquoi il a vu un signe qu'il va y avoir une délivrance? Un signe de délivrance, c'est Rashi rapporte le Midrash, il s'est dit comment ça se fait que cette tzadikette, et Rashi dit que c'est sa femme, donc il sait que vraiment c'est une femme vertueuse, elle devient être dans le harem de ce rachat. C'est pas possible que ça se passe. Donc si ça se passe, c'est sûr qu'il va se passer quelque chose par elle. Alors ça en vérité c'est quelque chose de bouleversant. C'est bouleversant, parce que, et se faisant cette réflexion, jour après jour, en vérité, Esther est prise, la quatrième année, voilà, elle va être choisie, vous venez au cours.
Je suis Judith Barda, je suis la cousine de Michael Adida, c'est lui qui m'a indiqué votre cours.
Ok, d'accord.
Bonsoir.
C'est bon.
Désolée d'être en retard, mais je trouvais.
Alors, prenez un texte, là, ça sera bien.
Okay. Merci.
Vous êtes sœur de Gabriel?
La nièce de Gabriel.
Nièce de Gabriel, d'accord. Ok, d'accord, c'est son frère. Ah, d'accord, ok. Non, mais on demande le CV, hein, attention.
Là-dessus, ça m'a fait.
Alors.
Excusez-moi,
désolé. Pas de problème, je parle page 1322. Alors, le Esther est prise dans le harem la quatrième année du règne d'Assuérus. Elle va être choisie comme favorite la septième année, c'est-à-dire il va se passer 3 ans pleins. Et Aman va faire le décret d'extermination la 13e année. Donc pour le moment, il n'y a rien qui se passe. Pour le moment, il ne se passe rien. Et néanmoins, il voit qu'il va y avoir une délivrance. Mais j'aimerais que nous soyons dans une empathie. Nous soyons en transe dans le problème, monsieur, comment c'est votre prénom ? Eric. Que Eric, vous soyez en totale vibration, en résonance dans la problématique. Parce que si vous voulez lire du texte, le traduire, moi ça ne m'intéresse pas. On peut le faire, vous pouvez le faire tout seul. Il y a des cours merveilleux sur Internet. Je ne sers à rien. Donc, qu'est-ce que ça peut servir néanmoins ? C'est qu'on essaie de sentir ensemble ce qui se passe. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a, je ne sais pas moi, un grand tzaddik, un grand talmid chacham. Sa femme, c'est une femme traditionnelle, juive traditionnelle, qui a toutes les qualités de la femme juive traditionnelle. On lui chipe sa femme. Elle devient la favorite de Pablo Escobar. Il y a un problème, hein, quelque part, à l'horizon. Il y a un problème. Ouais. Il se dit, c'est sûr que si ça arrive, c'est qu'elle est là-bas pour quelque chose et qu'elle va sauver quelque chose. Il faut, et fort de ça, il fait tous les jours les 100 pas pendant 4 ans pour voir qu'est-ce que. Et il ne saute pas un jour. Comme je l'avais dit la semaine dernière, il aurait pu faire la tournée des bistrots aux heures de fermeture. Hein ? Non, il est sûr de ce qui se passe. Franchement, c'est très très bizarre. Et c'est grâce à ça que tout le miracle de Pourim va se passer. Parce que, à force de faire les 100 pas, un jour, il y aura deux gardiens de la garde prétorienne de l'empereur, nos maîtres disent en Tarse, ils vont parler dans une langue Tarse, la langue Tarse, une langue d'un peuple de l'époque, et lui, étant un maître du grand tribunal rabbinique qui connaissait les 70 langues, il a compris le Tarse, et il a compris qu'il fomentait un assassinat de l'empereur. Il a fait savoir à Esther qu'il y avait un coup d'État qui se préparait contre Assuérus. Et c'est comme ça que le peuple juif va être sauvé. Parce que plus tard, bien plus tard, lorsqu'il y aura le décret d'extermination, la nuit, Assuérus aura une insomnie, mais des années après, aura une insomnie. Il a dit, comment ça se fait ? Il voit dans le livre des chroniques que Mardoché, le juif, lui a sauvé la vie, et tout va se transformer. Tout va se transformer. Donc la délivrance va venir de là. Va venir de quoi ? Que tous les jours, il a fait les 100 pas, et grâce au fait qu'il a fait les 100 pas, le miracle est arrivé. Donc ici, j'aimerais qu'on voit une certaine définition de qu'est-ce que c'est un miracle. Alors j'ai fait des photocopies d'un livre très très important de notre tradition, le Messilat Yesharim. Je vous passe des photocopies. N'ayez pas peur, c'est une phrase, je vais la lire, mais j'aime bien qu'on ait le texte devant soi. Prenez ça. Donc la photocopie que je vous passe, c'est une photocopie d'un livre qui s'appelle Le Messilat Yesharim de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, qui était en Italie au début du XVIIIe siècle, 1730-1740. Et c'est un livre important sur le service de Dieu, comment servir Dieu. Et il dit le début du service de Dieu, il commence avec quoi ? Le début du service de Dieu, il commence avec la phrase là, regardez. Chazal amru moed katan, daf e. Nos maîtres disent dans le traité moed katan. Chazal amru, nos maîtres disent, donc dans le traité moed katan, dans le Talmud, kolasham orchotav ba olamaze, zoche veroe be yeshuato shel akadosh baruch hu. Toute personne qui réfléchit à ses pas. Orchot, c'est ses chemins. Cham, ça veut dire qui évalue ses chemins, qui réfléchit, qui pense ses chemins, ses pas, dans ce monde-ci, il aura le mérite de voir la délivrance divine. Donc la délivrance divine, c'est-à-dire, c'est le miracle de Dieu. Mais comment commence le miracle de Dieu? Quand quelqu'un y réfléchit à qu'est-ce qu'il doit faire dans sa vie précisément. Ici, c'est une innovation, parce que c'est une innovation. C'est-à-dire qu'en vérité, il me semble que tout le rouleau d'Esther est basé là-dessus. Le miracle, il vient sur le fait que Mordechai, il a dit, mais comment ça se fait que ma femme est prise, soit prise chez cet impie? C'est pas normal. Elle n'a pas sa place là-bas. Elle n'a pas sa place. Donc, si elle est là-bas, c'est qu'elle a sa place. Dans quelle place? C'est qu'elle a un rôle à jouer. Je ne sais pas sur quoi. Je ne sais pas pourquoi. Mais elle a un rôle à jouer. Et il en est sûr. Et il prend ça au sérieux. Et tous les jours, il fait les 100 pas. Et le miracle viendra de là. Donc le miracle vient en vérité de notre réflexion. Nous, dans notre existence, on est confronté à ça. On est dans notre vie, on est confronté à des choses des fois bizarres. Et réfléchir comment ça se fait, et pas avoir une pensée mystique. C'est pas l'histoire, c'est pas avoir une pensée mystique. Avoir une pensée saine, c'est ça. Hacham Orkotav, qui évalue ses chemins, qui réfléchit à qu'est-ce qu'il doit faire dans une situation précise, le miracle va venir. Ça, c'est incroyable. Parce que nous, on pense le miracle, vous voyez, c'est les effets spéciaux. Dieu, il arrive Dragon Ball Z, Force Rouge, transformation, machin. Non, c'est pas ça. La transformation se passe, mais par des choses réfléchies que nous, on a à faire. Et ça, c'est exactement cette démarche de Mordechai. Maintenant, on va continuer, parce que la question qui se pose, sur laquelle nous nous étions quittés la semaine dernière, c'est, regardez, on va regarder quelques versets plus loin. Verset Tetzain. Tetzain, c'est le verset 16. Verset 16. Va-t-il à car Esther et la Meller à Hachverosh, El Bet Malchuto, Bachodesh à Assyri, ou Chodesh Tevet, Bishnat Sheva le Malchuto. Esther a été prise chez le roi Assuérus, dans son palais royal, le 10e mois, qui est le mois de Tevet, la 7e année de son règne. Donc ça veut dire, elle a été prise la 4e année, 3 années ça a duré toute cette histoire. Elle a été dans le harem en attendant, ça a duré 3 ans où elle a poireauté, on ne savait pas du tout qu'est-ce qui se passait. 3 ans à poireauter. Et elle est prise, son tour, comme on avait dit la semaine dernière, il y avait des centaines de très belles filles dans l'Empire, elle était le numéro 543. 543 ! Donc, vous voyez un peu l'ambiance. Ouais, l'ambiance de dépravation, de l'ambiance horrible, en vérité. L'ambiance absolument horrible. Voilà. Esther a été prise chez le roi Assuérus, dans son palais royal, le 10e mois, qui est le mois de Tevet, la 7e année de son règne. Rashi nous dit, le 10e mois, le mois de Tevet. Le mois de Tevet, c'est dans quel le mois de Tevet, c'est quelle saison? Comment? C'est l'automne, voire l'hiver. Hein. Tevet, c'est juste après Hanouka. C'est l'hiver, c'est le cœur de l'hiver. Rashi dit, alors, est-ce que Rashi, vous connaissez le commentaire de Rashi? Rashi, le grand commentaire. Hein, sur
je ne connais pas, mais je...
Oui, non, mais vous avez entendu parler de Rashi.
Oui, j'ai vu voilà. À Troyes sa maison.
Donc, Rashi, très très grand commentateur, et sur le rouleau d'Esther, est absolument sublime. Il nous dit que là, il y a un miracle. Pourquoi le rouleau d'Esther nous dit qu'elle a été prise le mois de Tevet au cœur de l'hiver? Alors attention, c'est pas pour les bébés, c'est les personnes qui sont de la moyenne section de la maternelle, c'est pas pour eux. Ouais. C'est-à-dire que c'est un miracle, dit Rashi, qui faisait froid et que ça lui a fait plaisir à Assuérus d'être contre elle. Et Dieu a fait que ça soit au cœur de l'hiver et ça a boosté le fait qu'il l'a prise. C'est bon ? C'est un peu truculent, non ? Je sais pas, je trouve ça sympa. Non, c'est Rashi. Moi, je vous rapporte Rashi. C'est pas un truc. C'est pas une folie de Zizek, hein, c'est Rashi, c'est le grand Rashi. C'est Rashi qui dit ici pourquoi la Torah nous dit que c'était au mois de Tevet, pour nous dire parce qu'il faisait froid, parce qu'ils n'avaient pas le chauffage central il y a 2500 ans. Hein, il n'y avait pas, EDF, GDF, bien qu'aujourd'hui ça a changé. Je suis désolé, ça s'appelle Engie. Il n'y avait pas Engie. Et donc même dans le palais, il faisait froid. Donc Dieu a organisé que numéro 643, qui était Esther, ça soit au cœur de l'hiver. Pourquoi le verset nous le dit ? Parce que même ce détail a son importance dans le rouleau d'Esther.
On voit la même chose dans une Aftara où le roi David vieillissait. Il
avec froid. Abishag.
Ouais. Abishag il cherchait donc une vierge pour le réchauffer.
Pour réchauffer, voilà. Alors, très bien, très bien. Verset suivant. Vayehav ha-meler et Esther mikol anashim, fatisachen vachesel lefanav mikol ha-betulot, vayasem keter malchut berosha vayamichea tarat vashti. Le roi a aimé Esther plus que toutes les femmes. Elle a trouvé grâce et générosité devant lui plus que toutes les vierges. Elle n'était pas vierge, mais il a trouvé encore plus de d'affection avec elle que si elle avait été vierge. Et il a mis la couronne royale sur sa tête et l'a fait régner à la place de Vashti. Donc là, tous les photographes, le couronnement, Stefan Bern a été envoyé pour suivre en direct le couronnement de la nouvelle impératrice. C'est joli. Mais les sages demandent, dans le traité Ketubot d'Av Gimel Amoudbet et dans le traité Sanhedrin d'Av Ayin Dalet Amoudbet, comment ça se fait que surtout nos maîtres disent que Esther était la femme de Mordechai, comment ça se fait qu'elle ne soit pas laissée tuer ? Comment ça se fait ? Alors, c'est une question très grave, puisque nous savons que si notre vie est en danger, si notre vie est en danger, et que pour se sauver du danger, il faille transgresser un interdit de la Torah, il faut transgresser un interdit de la Torah. Il faut le faire. C'est obligatoire. C'est tellement obligatoire que même, par exemple, quelqu'un meurt de faim, et la seule possibilité de se sortir de ce qui meurt de faim, c'est de manger quelque chose de pas cachère, oui.
Il faut le faire.
Il faut le faire, il fait même la bénédiction avant de le manger. Pour vous dire. Ça veut dire, s'il doit manger du cheval, ouais, il fait Shakon Yebidvaro. Et après, il fait Borene Fachot. Non, pour vous dire, tellement c'est obligatoire. C'est pas seulement c'est obligatoire, mais ça devient une mitzvah de le faire. C'est écrit Vechai Barem. Les mitzvot de la Torah ont été donnés pour vivre avec et pas pour mourir. Sauf trois exceptions. Trois exceptions. L'idolâtrie. Où on ne doit pas faire de l'idolâtrie, même au péril de notre vie. On ne doit pas transgresser des interdits sexuels de la Torah, même au péril de notre vie. Et on ne doit pas tuer quelqu'un au péril de notre vie. Si vous voulez, là, le style mafieux, ouais, tue un tel, sinon je te tue, tue-moi. Voilà. On ne tue pas pour sauver sa vie. On ne tue pas pour sauver sa vie. Voilà. Mais, et de même, les interdits sexuels de la Torah. Or là, c'est un adultère. Si, à Dieu ne plaise, quelqu'un est violé, il est violé, mais là, elle peut dire non. Elle peut dire non, je ne vais pas dans la chambre du roi. Ah, quelle va être l'alternative ? Là, ici, elle n'est pas violée. Elle peut dire non, je ne vais pas dans la chambre du roi. Quelle va être l'alternative? Là, ça va être comme Vashti, elle va donner du canigou ronron au crocodile. Alors pourquoi se laisse-t-elle faire? Ça, c'est une question. Alors, la réponse de la Gemara. Alors, je vais vous dire, il y a presque des livres entiers qui ont été écrits là-dessus. Donc moi, j'essaie de vous faire aller à l'essentiel, bien que vous savez que dans tous les sujets talmudiques, il y a des discussions. Il y a beaucoup, beaucoup de discussions. Mais j'essaie d'aller à l'essentiel. La plupart des commentateurs expliquent que Abayé, grand maître de la Gemara, répond « Esther, karka olam haïta ». Esther était passive. Elle est passive. C'est-à-dire que dans un cas comme ça, regardez, c'est horrible, hein, c'est des choses. Et là, nous allons rentrer, parce que si on approfondit bien le rouleau d'Esther, et demain soir commence Pourim. Pourim, dans notre tradition, bien que ça soit une institution rabbinique, quelque part, c'est la plus grande des fêtes de la Torah, de la vie juive. Quelque part, c'est le cœur de la vie juive. Nos maîtres disent que Pourim est quelque part supérieur à Yom Kippour. Parce que Yom Kippour est appelé, c'est Rabbi Yitzhak Luria, le Harizal, il fait un jeu de mots, Yom Kippour, c'était Yom Kippourim. Yom Kom Pourim, donc dire que Pourim est premier par rapport à Yom Kippour. Et ce soir, on va essayer de comprendre en quoi. Mais pour ça, il faut rentrer dans les tréfonds de la Torah. On va toucher des choses centrales sur ce sujet. Comment ça se fait que dans un cas comme ça, il n'y a pas à se laisser tuer? Il n'y a pas à se laisser tuer. Alors, les Chachamim nous disent, que dans un cas comme ça, la femme, si vous voulez, si elle est consentante, Ça veut dire qu'elle participe à l'acte. Mais si elle se laisse faire, ça ne s'appelle pas qu'elle participe à l'acte. C'est vrai qu'elle a la latitude de dire « Non, j'y vais pas ». Mais une fois qu'elle est prise, elle est passive. Elle se laisse faire. Donc si elle se laisse faire, elle n'a pas à se laisser tuer. Aussi conséquence, c'est que si c'est la femme d'un Cohen, elle devient interdite à son mari. Un Cohen, une femme, à Dieu ne plaise, une femme qui est violée, elle est mariée à un Cohen, elle est complètement passive, elle devient interdite à son mari. Mais une femme Israël, la femme de quelqu'un qui n'est pas Cohen, ça c'est les Kohanim ont des limitations qui sont spécifiques des Kohanim. Mais quelqu'un Israël ou Lévi, oui, pas Cohen, la femme elle est violée, elle est permise à son mari. Un adultère, si c'est sciemment volontaire, elle devient interdite à son mari. Mais si elle est forcée, elle est permise à son mari. Donc là, elle était permise. Elle n'avait pas à se laisser tuer. Mais ce que je me pose la question, elle n'avait pas à se laisser tuer. Mais quand même, elle va être manipulée par ce monstre. C'est horrible, je veux dire. Elle n'a pas à se laisser tuer. Mais comment elle peut supporter une telle situation? Do you understand? Je vous donne un exemple. À Varsovie, dans le ghetto de Varsovie, en 1942, il y avait un séminaire de jeunes filles pieuses qu'on appelle le Beit Yaakov de Varsovie. Un Beit Yaakov, c'est-à-dire le séminaire de jeunes filles religieuses à Varsovie. Quand les nazis, ils ont pris Varsovie, alors ils ont vu que ça, c'était un séminaire de jeunes filles. Ils ont donné aux jeunes filles des robes à friolantes, la lingerie, vous comprenez ce que je veux dire? Bien. Et les jeunes filles, elles ont compris qu'est-ce qui allait se passer. Il y avait une monitrice, elle a réussi à avoir du cyanure, et les 83 filles, elles se sont suicidées, plutôt qu'être prises par, par la Gestapo, par les nazis. Les 83 filles, elles se sont suicidées, au cyanure. Bien. Tellement que s'il y en a qui connaissent Bnei Brak, je ne sais pas, il y a des gens qui sont déjà allés à Bnei Brak, au centre de Bnei Brak, il y a ce qu'on appelle le Gan Varsha. Il y a là où il y a les autobus, l'arrêt d'autobus, pour ceux qui connaissent Bnei Brak. Le Gan Varsha, au centre de Mamash. C'est quoi le jardin de Varsha? Vous allez là-bas, c'est en l'honneur de ces 83 filles. Ils ont fait ce jardin qui est au centre de Bnei Brak, en l'honneur de ces 83 filles. Mais, au niveau halakhique, elles n'avaient pas à se laisser tuer. Ah voilà, j'aimerais que là, là c'est là que ça va commencer, les amis. Là, c'est un petit peu Ardos, quoi. Un peu... Maïmonide, grand décisionnaire tout de suite. Hein. Maïmonide dit, si l'alakha est qu'on n'a pas à se laisser tuer, on n'a pas à être plus scrupuleux et se laisser tuer. Et que si on se laisse tuer, ça s'appelle un suicide. Donc là, on est en train de voir la question sur laquelle on était resté la semaine dernière. Esther, que la tradition talmudique dit que c'était la femme de Mordechai, elle est prise par Assuérus, donc c'est un adultère. Or, il y a trois catégories de fautes sur lesquelles on ne doit pas transgresser, même au péril de notre vie, c'est les interdits sexuels, l'idolâtrie, les interdits sexuels et le meurtre. Or là, c'est un adultère. Abaye répond, elle était passive. Ok, elle n'a pas à se laisser tuer, mais imaginez la situation, c'est répugnant, c'est atroce, tellement atroce que je vous rapporte cette histoire des jeunes filles de Varsovie qui se sont suicidées plutôt qu'être prises par ces barbares. Or, Rambam dit que quand la halakha est qu'on n'a pas à se laisser tuer, on ne doit pas se laisser tuer. Si la halakha est qu'on n'a pas à se laisser tuer, on ne doit pas être plus scrupuleux et se laisser tuer. Si par exemple, quelqu'un, c'est des sujets très très compliqués, je vais vous dire sincèrement, grâce à Dieu, j'ai écrit 3 livres jusqu'à maintenant. Et le 4e que je suis en train de commencer, c'est sur ce sujet. C'est pas très rigolo. Hein. Parce que c'est un sujet tellement subtil et pas connu, que je me dis ça vaut le coup. Bon, je sais pas que Dieu m'aide à continuer. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est atroce. Comment ça se fait que Esther, la femme de Mordechai, a supporté des années, qu'elle soit finalement la femme objet de ce répugnant personnage. Alors, moi, j'explique la chose suivante. Je me permets d'expliquer la chose suivante. Comme je l'ai introduit là, on dit que Pourim est supérieur à Yom Kippour. Hein, je viens de vous le dire. D'après Rabbi Yitzhak Luria, c'est supérieur à Yom Kippour. Maintenant, en quoi? À Pourim, la Gemara dit dans le traité Megillah, Amar Rava, mais Chayev inish le basume be Pouria, adelo yada ben Barour Mordechai la Arour Haman. L'homme a l'obligation de s'enivrer à Pourim jusqu'à ce qu'il confonde béni Mordechai et maudit Aman. Voilà. Attention, hein. On va voir. On va voir si vous allez le faire, hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Chayav Adesh le Basoumé, Rashi explique là-bas, sur le Talmud, les Shtaker Bayen, l'homme a l'obligation de s'enivrer dans le vin. Voilà. De devenir pompette. Mais c'est quoi pompette? Oui. Pourquoi pompette? Qu'on sache plus la différence entre béni Aman et maudit. Béni Mordechai et maudit. Voilà. C'est quoi cette histoire? Pourquoi? Alors, moi, je propose de ce que nous venons de voir là il y a 5 minutes. Que quand le Talmud dit l'homme a l'obligation, c'est-à-dire que l'homme iniche, c'est-à-dire Adam, nous, on est en nous, en chacun d'entre nous, il y a une dimension d'Adam qui est créée à l'image de Dieu. Si nous, on veut être Adam qui est créé à l'image de Dieu, il faut supporter quelque part de plus voir la différence entre un tzaddik et un rachat. Comment c'est possible? Entre un juste et un impie. Qu'est-ce que ça veut dire? Le sujet qu'on voit, me semble-t-il, nous explique ça. Esther, on l'a vu la semaine dernière, c'est la femme vertueuse. Hadassa et Esther, elle ressemble à la myrte. La myrte, c'est les justes comparés à la myrte. Voilà, comme on l'a vu. Donc c'est vraiment la femme vertueuse. Pas seulement c'est la femme vertueuse, mais elle a le mari qui lui convient. C'est un érudit de la tradition, c'est un maître, c'est un grand maître de la tradition. Mazel tov, tout va bien. Ok. Maintenant, elle se trouve tripatouillée par Pablo Escobar pendant des années. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, elle demande, c'est quoi la halakha? Madame, c'est quoi la halakha? Madame, vous êtes passive, vous n'êtes pas active, c'est pas volontaire. Vous n'êtes pas allé volontairement dans le harem de ce type-là. Vous avez été forcé à aller là-bas. Vous n'avez pas à vous laisser tuer. Maïmonide dit, si on n'a pas à se laisser tuer, on n'a pas le droit de se laisser tuer. Oui, mais c'est horrible. Mais c'est un enfer. C'est un enfer. Mais ma vie ne ressemble plus à rien. Moi, j'avais un plan dans mon existence que je vais servir Dieu, je vais manger kasher, je vais faire Shabbat, je vais élever mes enfants dans une bonne éducation juive. Elle se retrouve là-bas, mais sa vie, tous ses critères s'effondrent. Tout ce qu'elle pensait, toutes ses valeurs. C'est on dit dans la vie, il faut avoir des valeurs, n'est-ce pas? Très important. Toutes ces valeurs s'effondrent. Sa vie ne ressemble plus à rien. Mais là, l'alakha est... Elle n'a pas à se laisser tuer. Là, l'alakha est... Elle n'a pas à se laisser tuer. Ça, c'est ça. Ça veut dire... Nous, les enfants d'Israël, on a les mitzvot. Il y a des mitzvot qui nous conviennent. Il y a des mitzvot... Je sais pas, moi, aller kiddush le Shabbat, boire une petite boucha, ça c'est une mitzvah qui me convient. Ouais, une boucha avec une tranche de damrout, à damrout, ouais, je pense que...
C'est bien, ouais.
C'est bien comme mitzvah, ouais. C'est sympa, hein, je pense que ça va, hein, avec quelques fricassés. Tout va bien. Ça, j'aime bien les mitzvot, vous voyez? Bien. Maintenant, quelqu'un, il se retrouve dans un truc qui ne ressemble plus à rien. Plus à rien. Ça ne ressemble plus à rien. Il n'y a aucun intérêt, aucun... il se retrouve avec des barbares. Et la halakha est qu'il n'a pas cessé de tuer. Je vous donne un exemple pour aller plus loin. Dans les camps de concentration, il y avait des femmes qui étaient prises dans un genre, excusez-moi l'expression, de bordel de camps de concentration. ça existait. Des femmes qui, pour sauver leur vie, ont accepté dans des trucs comme ça. Mais c'est comment tu peux supporter un truc comme ça ? Sauver sa vie. Sauver sa vie. Il y a le je m'excuse, vous êtes, je sais pas si vous êtes habitué à avoir des Ashkenazim. Vous savez qu'est-ce que c'est un Ashkenazim ? Au bout d'un quart d'heure, il parle des camps de concentration. Nous, on a été élevés comme ça. C'est l'ambiance dans laquelle on a été élevés. Mon beau-père, le père de mon épouse, lui, il n'a pas été... il n'a pas été déporté dans les camps nazis, il a été déporté dans les camps staliniens. Il a vécu 3 ans dans les camps de Staline. Bon, grande histoire, bon, passons. Okay. En soi, c'est intéressant, mais ce n'est pas le cœur du sujet. Mais il m'a dit... Parce qu'on a bon, évidemment discuté au fil des années. Bon, maintenant, il est décédé il y a depuis pas mal de temps. Qu'est-ce qui se passe ?
Parce que mon mari n'aime pas que je sois en retard.
Alors, il m'a dit que... On a beaucoup discuté. C'était dans l'Oural. Il m'a dit que c'était, en vérité, un camp d'extermination à sa manière. C'était un camp d'extermination. Et il m'a dit que survivre, c'était être un héros. Survivre, c'est être un héros. Même, je vais vous donner encore un autre exemple. Je vais prendre un autre exemple. Il y avait un grand rabbi qui a survécu à Auschwitz, qui s'appelait le rabbi de Klosenburg. Rabbi de Klosenburg, qui s'appelle Rabbi Yehuda Yekutiel Alberstam. Il a survécu à Auschwitz, où il a perdu sa femme et, je crois, 10 enfants. Il a survécu. Et il a vécu longtemps. Il a vécu très longtemps. Il est décédé il y a une quinzaine d'années. Et il a vécu vieux. C'était un grand rabbi qui était en Israël. Pour les personnes qui connaissent Natania, c'est lui qui a fondé l'hôpital Lagnado. Ouais, c'est le rabbi de Sens, Klosenburg, qui a créé l'hôpital là-bas, à Kiryat Sens, à Natania. Et j'ai lu dans un livre, que quand il y a eu la libération des camps de concentration, les gens qui ont survécu ont été dans des genres de camps, des camps de réfugiés, et ils sont restés encore quelques temps en Allemagne, etc., où le joint a envoyé beaucoup de choses pour qu'ils guérissent, qu'ils se nourrissent, etc. Et après, ils sont allés, beaucoup sont allés en France, beaucoup sont allés en Israël, aux États-Unis, etc. Bon. Et le Yom Kippour, après la libération des camps, il y a un monsieur pieux, il a dit au rabbi de Klosenburg, regardez, après tout ce qu'on a vécu, Yom Kippour, on doit demander pardon. Mais après tout ce qu'on a vécu, on a demandé pardon de quoi ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait de mal ? Qu'est-ce qu'on a pu fauter ? Le rabbi de Klosenburg, il a répondu, je vais te dire sur quoi tu dois demander pardon. C'est que des fois, tu ne voulais plus vivre. Tu as désespéré de vivre. Tu ne voulais plus vivre, tu dois demander pardon là-dessus. En vérité, ça c'est le sujet ici. Que Esther, elle était dans une situation atroce. Il y a des, si vous voulez, là je rapporte les camps de concentration. Les camps de concentration, c'est des drames nationaux, internationaux. Ben, des gens, des fois, ils vivent des drames individuels. Des drames individuels, que Dieu nous en préserve. Ils vivent des fois des drames individuels. Comment aborder ces drames individuels ? Cette femme, elle vit un drame. La halakha, elle n'a pas su se tuer. T'aurais pas su se tuer. Mais ça va pas, quoi. Mais, il y a des gens qui se flinguent. Et on pourrait se dire, elle peut demander, dites-moi, c'est plus efficace au 10e étage ou ça suffit le 4e étage? Non, dites-moi. Non. 12e étage, peut-être, c'est mieux. Non, ça, on peut se poser cette question. Comment des années, elle est la favorite de ce taré qui a pendant 3 ans, ouais, tous les soirs, il y avait une autre nana, excusez-moi l'expression, notre nana, elle regardait, là, c'est le super Harvey Weinstein, quoi. C'est Harvey Weinstein, c'est un bébé à côté, je veux dire, c'est le Harvey Weinstein plus, quoi. C'est... Et il n'est même pas juif. Non, ça veut dire... C'est horrible. C'est absolument horrible. Et elle a vécu. Et elle a supporté. Et le fait qu'elle a supporté, c'est par là que la délivrance est venue. Si elle s'était flinguée, il n'y aurait pas eu la délivrance. Donc elle a supporté de vivre. Ça, il me semble, c'est quoi la tchouva? Les Chachamim nous disent, comme j'ai dit tout à l'heure, comme j'ai rapporté tout à l'heure, que Pourim, c'est supérieur à Yom Kippour. Parce que Yom Kippour, si vous voulez, est la question, parce que c'est la 3e séance que nous faisons sur le rouleau d'Esther. La première séance, on avait, pas tout le monde était là, mais je rapporte une question fondamentale. Pourim, demain soir. Bon, demain soir, c'est peinard, mais jeudi. C'est un jour de semaine. C'est un jour de semaine. Pourquoi les sages, ils n'ont pas interdit à Pourim de travailler? Ici à Paris, la plupart des gens, même les gens qui sont pieux, ils vont bosser. Et Pourim, qu'est-ce qui se passe?
Rien.
Il va se passer quoi? À 17h, on appelle son copain. Allô, Pourim Saméar? Bon alors, j'ai une canette là de Cronenbourg. Alors, les Chaïb, mais attends, je ne dis pas trop fort parce que, attends, il y a les collègues, ils commencent à me regarder de travers, là.
Les Chaïb. Pourim, sa mère.
Bon, salut, hein. Bon, ouais, bon, ben, il faut être joyeux. Hein. Bon, salut. Je peux même pas lancer sur les collègues des confettis. Ouais, salut, je raccroche. Ouais, parce que il y a le chef du personnel, il me regarde là de travers. Salut, Pourim, sa mère. Ouais, ça, qu'est-ce que c'est que cette débilité? C'est un jour de semaine. C'est un jour de semaine. Certes, les sages disent, ils n'ont pas interdit de travailler. Tu veux travailler? Va travailler. Les sages disent, dans la Gemara, que celui qui travaille à Pourim ne verra pas de bénédiction de ce travail. Allez, ça ne sert à rien. Alors, interdit.
C'est bien ça.
Interdit. Pourquoi ils ne disent pas? Pourquoi ils disent pas que c'est interdit de travailler? Non, tu veux travailler, travaille. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est un jour de semaine. Et bon, moi, je ne travaille pas dans une entreprise. Je travaille dans une yeshiva. Donc, j'ai fait mes choix. Hein, mais bon. Mais disons, quelqu'un. Mais mes élèves qui sont dans des entreprises me disent que ben, la plupart, même s'ils sont pieux, même s'ils sont chômeur Shabbat, etc., ils vont bosser. Il termine peut-être une demi-heure avant. Mais qu'est-ce que c'est que cette fête? Qu'est-ce que c'est cette fête? Alors le sujet, je propose de dire comme ça. C'est plus grand que Yom Kippour. C'est plus grand que Yom Kippour. Yom Kippour, on prend de faire sur soi, on prend sur nous de faire la volonté de Dieu. Bon, t'as l'ambiance. Ouais. Kenora lila ta la 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 be chatanei la voici tout le monde voilà on Hashem eler Hashem alar Hashem imlor leolam va tout le monde est dans l'ambiance et machin Yom Kippour oui on fait tchouva un max etc.